RFI.
h 30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Afrique Midi, c'est avec Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à toutes et à tous. Le Niger annonce quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Le Burkina Faso fait de même. Ces deux pays avaient été suspendus de l'OIF après les coups d'État. La situation dans l'est du Congo, des pourparlers directs entre la FCM23 et le gouvernement congolais devait commencer aujourd'hui en Angola. Mais le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali a annoncé qu'il ne ferait pas le déplacement suite aux sanctions de l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants. En revanche, Kinshasa a bien envoyé une délégation. Il y a 10 ans, un attentat sanglant visait le musée du Bardo à Tunis. 21 touristes et un agent de police étaient tués. La menace terroriste existe-t-elle toujours en Tunisie? Anne-Clémentine Larocque, spécialiste des islamismes et chargée de cours à Sciences Po Paris, est notre invitée. Le Niger quitte l'Organisation internationale de la francophonie. Le pays avait été suspendu de l'OIF quelques mois après le coup d'État contre le président Bazoum en juillet 2023. L'OIF qui a annoncé hier soir que le Burkina Faso avait pris une décision similaire. Pierre Fiarcion, ces départs marquent la fin d'une époque.
Car l'organisation perd là l'un de ses membres fondateurs, le Niger. L'OIF a vu le jour le 20 mars 1970 à Niamey sous l'impulsion du président nigérien de l'époque, Amani Diori, l'un des pères fondateurs de la francophonie institutionnelle. Mais en décembre 2023, première rupture, le pays est suspendu de l'organisation suite au coup d'État du mois de juillet. 15 mois plus tard, le Niger annonce donc son retrait, un départ donc très symbolique que l'OIF juge regrettable. Aurélia Van de Weg est la porte-parole de l'organisation.
C'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre qu'un État souhaite quitter. Après, nous, en tant qu'institution, on respecte les décisions souveraines des États. Bien entendu, on regrette l'impact que ça pourrait avoir sur les projets en cours. La volonté de la secrétaire générale, ce sera de solliciter l'avis des États pour voir dans quelle mesure l'OIF peut rester engagé auprès des populations de ces pays-là. On a des projets en cours. Le retrait du pays, du Niger, des instances de la francophonie, est-ce que ça doit nécessairement pénaliser les populations auxquelles nous sommes attachés? L'organisation de la francophonie, elle tient à cœur les communautés francophones, y compris dans les pays non membres. Donc il n'y a pas de raison que ça cesse pour le Niger.
Le Burkina Faso a également annoncé à l'OIF son retrait de l'organisation, même si pour l'heure, les autorités burkinabées n'ont pas communiqué à ce sujet. Le pays était lui aussi suspendu des instances de la francophonie suite au coup d'État de janvier 2022. Le retrait de ces deux pays ne sera effectif que dans 6 mois. Le Mali, le troisième pays de l'AES, suivra-t-il le mouvement? L'OIF assure n'avoir pour l'instant reçu aucune notification en ce sens.
De nouvelles vagues de départ de migrants des côtes tunisiennes. Plus de 600 personnes ont été repêchées par la garde nationale au large de la Tunisie dans la nuit de dimanche à lundi. On compte également, Frédéric Gara, 18 décès.
Oui Nicolas, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux sont comme souvent poignantes. Une femme à bord d'un bateau de sauvetage tunisien tente de hisser le corps sans vie d'un enfant qui pourrait être le sien. On voit également des dizaines et des dizaines d'adultes et d'enfants désemparés et épuisés sur les bouées ou des embarcations de fortune avec pour but initial de quitter Sfax en Tunisie, direction l'Europe et un supposé Eldorado. 612 migrants au total ont été repêchés en début de semaine par les gardes-côtes tunisiens. Au moins 18 migrants sont morts noyés, selon les autorités de Tunis. La Tunisie et Sfax, la seconde ville du pays, qui sont devenus des lieux de départ privilégiés pour les clandestins, souvent issus d'Afrique subsaharienne. De sources humanitaires, il serait entre 20 000 et 25 000 massés dans des camps de fortune aux abords des plages tunisiennes. L'UNICEF dénombrait en janvier dernier 2200 morts ou disparus dans les eaux de la Méditerranée, des migrants qui tentaient de rejoindre les côtes italiennes distantes d'une centaine de kilomètres de la Tunisie.
Au Sénégal, c'est à Rosso, au bord du fleuve qui sépare le Sénégal de la Mauritanie, que sont refoulés les migrants subsahariens venus de Mauritanie. Les ONG, mais aussi les autorités sénégalaises, se sont inquiétées ces derniers jours d'une vague d'expulsion de plusieurs centaines de personnes en situation irrégulière. Notre correspondante, Léa Lisa Westerhoff, s'est rendue sur place à Rosso.
Sous un soleil de plomb, ils sont une dizaine à l'ombre d'un toit de tôle, tout près de l'embarcadère vers la Mauritanie. Tous guinéens et refoulés, comme Diallo débarqué dimanche à Rosso, arrêté à Nouakchott alors qu'il était allé acheter à manger.
Il te dit, tu es étranger, non ? Tu dis oui, on te prend. 2 jours, on est enfermé là-bas. Si tu n'as pas argent pour acheter à manger là, wallah, tu vas mourir dans la salle là.
Camara, vêtue d'un grand voile mauritanien, elle aussi était expulsée malgré sa grossesse et sa fille de 2 ans.
Et il m'a attrapé de ça à la maison, j'étais couchée. Donc il vient, il con. Quand tu ouvres la porte, il te prend, il te melote, tu pars à prison. Moi, je fais 1 semaine à prison. Il n'y a pas à manger, il frappe les garçons.
Tout son argent gardé par la police, dit-elle. Voilà près d'un mois que la jeune femme a trouvé refuge dans cette cour devant une maison où elle campe chaque soir avec une dizaine d'expulsés. Tous disent avoir été maltraités. Sila, qui travaillait comme coiffeur depuis 1 an, dénonce une politique injuste.
Pourquoi vous nous traitez comme ça? Le Guinéen n'a rien fait de mal en Mauritanie. S'il s'agit de trouver des cadres de séjour, on vous donne 1 semaine ou 1 mois. Mais aujourd'hui, je vous jure, quand vous partez demander, même si j'en ai, on ne me donne pas. Sinon, moi, j'ai fait plus de 1 mois, je suis en train de courir derrière eux quand j'ai perdu ma carte de séjour. Ils refusent catégoriquement.
Avec sa femme et son fils encore en Mauritanie, Sila ne peut pas rentrer en Guinée et espère pouvoir retourner à Nouakchott les chercher, sans succès pour le moment. Léa Lisa Vesterhoff, Rosso, RFI.
L'actualité en République démocratique du Congo, des pourparlers directs entre la FCM23 et le gouvernement congolais devaient débuter ce mardi à Luanda en Angola, mais le mouvement politico-militaire soutenu par Kigali a annoncé qu'il ne fera pas le déplacement en cause les sanctions prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants. Des sanctions que le groupe rebelle considère comme une entrave au dialogue. Du côté de Kinshasa, Passion Ligodi, une délégation a bien rejoint la capitale angolaise.
Les membres de la délégation congolaise sont arrivés hier soir à Luanda en provenance de Kinshasa. Officiellement, ni leur nombre ni leur identité n'ont été révélés. Mais selon les informations de RFI, cette délégation est composée d'experts politiques et militaires. Ce matin, ils disaient attendre le programme de la médiation. Nous sommes là, nous dépendons de la facilitation. Nous sommes surtout venus pour écouter, confie à RFI une source au sein de la délégation. Côté angolais, la médiation assurait hier soir que les discussions allaient se tenir comme prévu. Toutes les conditions sont réunies, affirmait-elle, en indiquant encore attendre la délégation de la FCM23. Mais jusqu'à cet avant-midi, le mouvement politico-armé n'avait toujours pas fait le déplacement et ne prévoit pas de les faire, renseigne-t-il. Nous ne sommes pas là et la facilitation ne nous a pas relancé à ce propos, a déclaré à RFI un dirigeant de la FCM23. Le mouvement maintient sa position. Sa participation est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Le M23 qui a donc fait valoir les sanctions prises par l'Union européenne pour ne pas faire le déplacement à Luanda. Plusieurs personnalités rwandaises, 3 hauts gradés de l'armée accusés de diriger des troupes aux côtés du M23, ainsi que le patron du RMB, l'organisme rwandais en charge des mines, sont également sur la liste des personnes sanctionnées. Des accusations qui mettent en péril les négociations en cours, réagit ce matin le porte-parole du gouvernement de Kigali, Alain Mukuralinda.
Ce que le gouvernement rwandais peut dire sur ces sanctions, c'est que elles viennent gêner ou compromettre les processus qui ont été mis en place dans la région pour essayer de trouver une solution durable à ce problème. Au moment même où on prenait des sanctions en Europe, il y avait une réunion à Harare, au Zimbabwe, pour mettre en place un processus de résolution de ce conflit. Donc nous avons d'un côté des pays africains, des pays limitrophes, des pays de la région qui essaient de trouver une solution par les négociations, par voie de discussion politique. Et d'un autre côté, nous avons des pays à plus de 6 000, 7 000 kilomètres qui sont loin. Au lieu d'aider, d'accompagner ce processus, ils sont en train de prendre des sanctions. Et puis, la RDC se sent soutenue par ces pays lointains, ça peut aussi l'encourager à ne pas faire des efforts pour mettre en place les décisions qui seront prises au niveau de la région.
Des propos recueillis à Kigali par Lucie Mouillot. La situation dans l'est du Congo était aussi hier au cœur d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe à Harare, au Zimbabwe, avec au programme l'examen des recommandations des chefs d'état-major des 2 blocs régionaux. Polynésie dit, à la sortie de la réunion, le chef de la diplomatie kenyane qui présidait la réunion avec son homologue zimbabwéen s'est félicité d'une feuille de route complète avec des stratégies à court, à moyen et à long terme.
Un mois, trois mois et plus de 120 jours. Voici comment les deux régions ont découpé leur feuille de route. À court terme, donc en moins de 30 jours, la Réunion demande aux partis de s'engager en faveur du cessez-le-feu et de cesser toute expansion du territoire. Elle recommande aussi le renforcement des mécanismes de vérification de la MONUSCO, la mission onusienne et de la Conférence internationale des Grands Lacs, CIRGL, qui sont déjà déployés depuis plusieurs années sur le terrain. Des mécanismes que les deux régions proposent aussi d'accompagner. Puis il y a le déploiement d'une équipe de 12 à 16 experts militaires civils pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans les deux provinces concernées. D'ici maximum 120 jours pour la deuxième phase, les ministres demandent à l'ONU d'étendre le mandat de sa force pour sécuriser le Nord Kivu, mais aussi le Sud Kivu, une province dont la mission s'était désengagée en 2024. Ils évoquent aussi un cessez-le-feu devenu permanent et surtout des mesures de confiance. Je cite, au niveau politique et militaire avec la négociation et la médiation, clairement, il est donc question de discussion entre les différentes parties, ce qui n'est pas encore acté, on l'a vu ces derniers jours. Enfin, à plus long terme, pour le dernier trimestre, le trimestre suivant, les chefs de la diplomatie prévoient le rétablissement de l'autorité du gouvernement congolais sur les zones actuellement occupées par le M23 et un accompagnement de la RDC pour sécuriser Goma, Bukavu et les environs. Alors, cette feuille de route n'est pas encore adoptée officiellement. Il faudra un sommet conjoint au niveau des chefs d'État pour entériner ces mesures. Il devrait avoir lieu, selon le document, avant le 14 avril.
Polynésie dit en direct de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a dévoilé hier la liste provisoire des électeurs. La CEI a officiellement remis cette liste aux partis politiques, Binta Diagne.
D'après les données de la commission électorale indépendante, il y a à ce jour 8,7 millions d'électeurs sur la liste provisoire, dont près de 769 000 nouveaux inscrits. Cette liste étant désormais affichée dans les commissions électorales locales, les citoyens peuvent la consulter et à partir de samedi, déposer des recours en cas d'irrégularité. Ibrahim Koulibaly-Cuibière, le président de la CEI.
Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. La violence n'a pas sa place. Les injures n'ont pas leur place. Il faut tout simplement recourir aux voies de droit.
La CEI a remis une copie de la liste provisoire des électeurs à chaque parti politique. Parmi eux, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, fait les comptes et note que l'objectif d'enrôler 4 millions d'électeurs supplémentaires n'est pas atteint. Kazadia, représentant du PPACI à la CEI.
Elle a exprimé dans sa démonstration qu'il y a plus de 12 500 000 qui devaient être sur la liste. Et aujourd'hui, nous avons 8 millions. Les gens veulent s'inscrire. C'est eux qui refusent d'ouvrir. Donc, ça amène à réfléchir. Pourquoi est-ce que la CEI refuse ?
La commission électorale indépendante entend publier la liste définitive des électeurs vers le 20 juin. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et j'ajoute que l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que le leader du COGEP, Charles Blégoudé, ne figurent pas sur cette liste électorale provisoire. En effet, tous les deux sont inéligibles suite à des condamnations judiciaires prononcées par la justice ivoirienne.
Afrique Midi sur RFI.
Il est midi 43 à Abidjan. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le Congo-Brazzaville et Cuba décident de relancer leurs relations. Les sports du football et les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, elles commencent demain pour la zone Afrique. Et puis nous écouterons le dernier album du groupe berbéro-breton Babel West. Il est en concert ce week-end à Paris. Le Premier ministre de Cuba, Manuel Marrero Cruz, a commencé hier soir une visite à Brazzaville. Le Congo et la Havane ont décidé de relancer leurs relations, comme à la grande époque des années 60 et 70, Loïcia Martial.
Le Premier ministre cubain est arrivé en compagnie de son épouse par un vol régulier d'Air France. Selon le programme officiel, il doit échanger ce mardi matin avec le Premier ministre congolais Anatole Kounemakosso. Il aura ensuite des entrevues avec les dirigeants des deux chambres du Parlement avant de boucler sa tournée des hauts responsables congolais avec le président Denis Sassou Nguesso. L'objectif de cette visite est de redynamiser les relations entre les deux pays très proches à l'époque où ils étaient tous les deux marxistes-léninistes et dans le camp de l'URSS. Leur lien était étroit, au point où le Congo avait servi de base arrière pour l'intervention militaire de Cuba lors de la guerre d'indépendance de l'Angola dans les années 70. Une coopération qui s'était également déclinée sur le plan médical, l'éducation, avant qu'elle ne baisse drastiquement. Nous voulons relancer la coopération entre les deux pays. Selon une source contactée par RFI, cette visite est la première d'un responsable cubain depuis plusieurs décennies. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Les sports du football et le début de la trêve internationale en Afrique. Elle est consacrée aux 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026 qui vont se dérouler entre demain et mardi prochain. Parmi les équipes surprises du début de ces éliminatoires, on trouve les Comores. Déjà qualifiés pour la prochaine CAN, les Sélakans sont en tête de leur groupe de qualification pour le Mondial. Une place qu'ils entendent bien conforter dès ce jeudi face au Mali, Cédric de Oliveira.
Pour l'instant, tout se passe bien pour les Comoriens. 3 victoires en 4 journées dans ces éliminatoires et une première place du groupe I partagée avec le Ghana. Et la Coupe du Monde n'est plus une utopie pour Youssouf Mchangama et ses partenaires.
Pourquoi pas? C'est avec beaucoup d'humilité et d'ambition qu'on aborde ces qualifications. On est devant et l'objectif, c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a du temps, il y a beaucoup de matchs. Donc voilà, il va falloir travailler très dur pour obtenir le rêve de tout un peuple.
Les Comores visent une première participation historique pour leur pays pour poursuivre sur leur lancée après une autre campagne d'éliminatoire réussie pour la phase finale de la CAN 2025 et des victoires face à la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Les Sélakans, comme on les surnomme, ne sont plus considérés comme une équipe de seconde zone.
C'est normal qu'on soit plus attendu. Il y a eu un gros travail du staff, de tout le monde, pour qu'on puisse garder la tête froide et continuer d'avancer avec beaucoup d'humilité. Donc on va être attendu. Donc ça veut dire que c'est d'autres matchs. Il y a pas d'effet de surprise dans les matchs.
L'échec de la non-qualification à la CAN 2024 est maintenant derrière les Comoriens, mais le programme est encore long et seul le premier du groupe gagnera son billet pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Les deux rencontres des Comores auront lieu jeudi face au Mali et mardi 25 face au Tchad. Les matchs se joueront à chaque fois au Maroc. Le groupe Berbéro-Breton Babel West est en concert ce week-end à Paris. Connu pour ses performances énergiques et ses paroles engagées, le trio vient de sortir son 3e album, Aman. Le trio, composé d'un Marocain, d'un Français et d'un Tunisien, y dévoile 8 titres conçus comme des fables modernes sur des enjeux du monde d'aujourd'hui. Carmen Nunzmann.
C'est la fusion improbable entre culture berbère et bretonne, réunie dans un groupe de musique aux affinités rock. Babel West, ce qui signifie la porte de l'Ouest, en a fait sa signature depuis ses débuts. Après une décennie sur la route, le groupe sort un album comme un manifeste.
L'album Aman, qui veut dire l'eau en berbère, est né d'une réflexion profonde sur l'eau, source de vie, un élément qui unit les cultures et traverse les frontières. À cela s'ajoutent des défis liés aux infrastructures qu'on connaît en Afrique, l'accès inégal à l'eau potable, les effets du changement climatique qui aggravent la sécheresse et la désertification.
Qui place l'humanité face à ses responsabilités ou qu'il évoque le bonheur et la pauvreté d'une nuit de noces le ventre vide. Babel West explore le monde à travers sa diversité, passant du disco raï algérien à la cumbia sud-américaine, du ska à l'afrobeat. Derrière les paroles chargées de symboles et de métaphores de la poésie berbère, le groupe parvient à convoquer le pouvoir rassembleur de la musique, qui rend universel, solaire et libre comme l'eau.
Babel West et son nouvel album Aman en concert à Paris vendredi au Trianon.
Yeah.
13h50 à Paris. Clotilde Dumay, les grands titres de ce mardi 18 mars.
Moscou condamne fermement les frappes israéliennes. Elles pourraient enflammer la région, s'inquiète Doha. Le secrétaire général des Nations Unies se dit choqué. Londres appelle à rétablir le cessez-le-feu dès que possible. Réactions internationales après les frappes d'Israël cette nuit dans la bande de Gaza. Au moins 413 morts, d'après le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Le mouvement islamiste palestinien qui accuse l'État hébreu de torpiller l'accord de trêve. Israël, de son côté, promet de poursuivre l'offensive jusqu'au retour des otages encore détenus par le Hamas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit dès cet après-midi. Dans quelques minutes, nouvel entretien de Donald Trump et Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes doivent échanger pendant 2 heures, avec toujours l'objectif d'aboutir à une éventuelle trêve en Ukraine. Gaz lacrymogène, coup de matraque en France. Les forces de l'ordre ont procédé ce matin à l'évacuation sous tension de la Gaîté Lyrique, lieu culturel occupé depuis plus de 3 mois par des centaines de jeunes migrants. Et puis ils sont attendus au large de la Floride dans la soirée. Les 2 astronautes bloqués depuis plus de 9 mois dans la Station Spatiale Internationale ont quitté l'ISS à bord d'une capsule de SpaceX. Il y a 10 ans, une attaque terroriste revendiquée par l'État islamique visait le musée du Bargo à Tunis. 21 touristes, un agent de police et 2 terroristes étaient tués. 10 ans plus tard, qu'en est-il du risque terroriste en Tunisie? Anne-Clémentine Larocque, historienne spécialiste des islamismes et chargée de cours à Sciences Po Paris, et votre invité Nicolas Sûre.
Bonjour Anne-Clémentine Larocque.
Bonjour.
10 ans après l'attentat du Bardo, la menace terroriste existe-t-elle toujours en Tunisie?
Alors la menace terroriste existe encore de manière générale, mais en Afrique du Nord, effectivement, comme pour d'ailleurs la France, on a noté évidemment une baisse du nombre d'attaques et des attaques qui sont de plus en plus déjouées. N'oublions pas qu'il y a eu un attentat quand même à Djerba en 2023, dans une synagogue, qui a fait aussi plusieurs morts. Donc la menace terroriste semble s'estomper. En revanche, elle existe encore. Je rappelle quand même que le président actuel, Kais Saied, a redit donc en décembre, novembre dernier, qu'il allait encore proroger l'état d'urgence jusqu'à fin 2025. État d'urgence en lien avec effectivement, des risques sécuritaires, notamment des attaques terroristes. Donc, on n'a pas du tout un arrêt, si vous voulez, de la menace.
La menace semble donc en recul. Pour quelle raison?
Elle semble en recul parce qu'il y a moins d'attaques. Bien évidemment, les services de sécurité et de renseignement se sont organisés et se sont renforcés, bien sûr. Il y a une recomposition aussi des 2 groupes, donc État islamique et GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ancien ACMI, évidente depuis 2017-2018, avec une Afrique australe qui est davantage touchée qu'auparavant. Donc tout ça montre une chose, c'est qu'on a peut-être en apparence moins l'impression d'être touché, sauf que vous avez au sud de la Tunisie, en tout cas, des cellules potentiellement encore dormantes, en lien avec la Libye, où je rappelle que l'État islamique s'était installé à Sirte pendant 1 année, et vous avez effectivement des cellules dormantes, ça c'est sûr, en Libye, qui peuvent être réactivées et toucher le territoire tunisien.
Et également dans la zone frontalière avec l'Algérie.
Dans la zone frontalière. Bien que l'Algérie ait voulu reprendre, du fait aussi de la distanciation des Français et du retrait des troupes françaises dans le Sahel pour justement protéger les États du terrorisme, l'Algérie a voulu reprendre quand même une casquette, si vous voulez, de gendarmes à ce niveau-là. Donc, ils ont quand même véritablement intérêt à ce qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette zone-là non plus.
La chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie et la libération de dizaines de djihadistes tunisiens qui étaient partis combattre aux côtés de l'État islamique dans ce pays a provoqué l'inquiétude en Tunisie. Le possible retour de ces djihadistes en Tunisie est-il à prendre au sérieux selon vous?
Écoutez, déjà je pense qu'il faut quand même très clairement souligner le fait que la Tunisie a symbolisé la première force hors Syrie-Irak des personnes qui ont rejoint l'État islamique. En Syrie. C'est-à-dire que vous avez plus de 7000 Tunisiens sur un pays qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. C'est énorme par rapport à la France qui a eu 1500 partants en Syrie, en Irak, je le rappelle. Donc déjà d'une, ils ont énormément de jeunes qui sont partis, c'est un fait. De deux, Si vous voulez, la prévention sur le contre-terrorisme a mis du temps à se mettre en place. L'Union européenne, Civipol en France ont aidé justement à cette structuration, mais c'est venu un petit peu en décalé à partir de la fin des années 2010, hein, 2018-2019. Et donc, on a quand même effectivement une inquiétude qui est tout à fait légitime, parce que vous avez quand même un État qui manifestement est tenu donc d'une main de fer, de manière presque dictatoriale, par Kais Saied, mais en même temps, bien évidemment, des problématiques sociales, identitaires et idéologiques qui existent et qui ne peuvent pas, si vous voulez, encore une fois, être mis sous le tapis par rapport donc à leur ampleur et par rapport à leur réalité.
Merci Anne-Clémentine Larocque. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Suite à présent de notre série de reportages au Cameroun anglophone, pour le Norwegian Refugee Council, c'est l'une des crises les plus négligées au monde. La violence y est toujours une réalité, 8 ans après le début d'une lutte armée entre groupes séparatistes et les forces gouvernementales de Yaoundé. Et les civils sont les premières victimes. Amélie Tulé s'est rendue à Mile 14, dans la banlieue de Boya, dans la région du Sud-Ouest, où un centre de rééducation autrefois dédié à la poliomyélite prend aujourd'hui en charge les blessés les plus graves.
Sur une dizaine de machines grinçantes, les pensionnaires du centre géré par le diocèse de Boya réapprennent à se mouvoir. Rien qu'en 2024, l'équipe de sœur Hortensia a pris en charge 49 personnes amputées venues des deux régions. Depuis le début de la crise, si vous regardez autour de vous, nous recevons surtout des patients qui ont subi des amputations causées par des tirs, des explosions. D'autres se sont retrouvés bloqués dans leur maison incendiée. Ils ont pu s'enfuir, mais avec des blessures graves qui n'ont pas été traitées à temps et ils ont dû être amputés. Un espace est dédié aux enfants souffrant de malformations, parfois liées au manque de soins pendant la grossesse et à des accouchements précaires. Donner naissance à un enfant dans le bouche, ce n'est pas pareil qu'à l'hôpital. Et avec la pauvreté, certaines femmes enceintes sont mal nourries. Beaucoup de ces enfants arrivent avec leur grand-mère. Quand je demande où est la mère, on me répond « elle est partie ». Beaucoup sont nés de viols, commis par des hommes armés. La fille est violée, donne naissance à l'enfant, l'abandonne et s'en va. Dans une des chambres, sur 3 lits côte à côte, 3 jeunes filles, Merline, Emmanuela et Cynthia, amputées des 2 jambes. Elles sont rescapées de l'attentat de Nkambé, ville du Nord-Ouest, où le 11 février 2024, un engin a explosé lors de la fête de la jeunesse organisée par les autorités. Merline avait 15 ans.
Je suis allée voir le défilé. Nous étions debout sur les côtés pour regarder. Il y avait de la danse. Nous étions là et soudain, nous étions allongés sur le sol. Ils nous ont fabriqué des jambes artificielles. Tous les jours, nous les mettons pour apprendre à marcher avec.
Sur le lit d'à côté, Emmanuela, 17 ans, tire sur le bas de sa robe pour cacher ses cicatrices.
C'était dur à cause de la douleur, mais à présent, ça va. La douleur est partie.
Quand ces filles sont arrivées ici, elles n'avaient plus des visages d'enfants. Elles ressemblaient à des grands-mères. Le soutien post-trauma leur a fait du bien. Depuis, heureusement, elles vont mieux. En fin de journée, un nouveau patient arrive, amputé d'une jambe après une attaque des Amba Boys contre sa ferme. Il a entendu parler du centre de rééducation à la radio et il vient pour une prothèse. Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Et c'est à Boya que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un peu plus d'une minute, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Clotilde Dumay, le journal de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou notre session en langue portugaise. À demain.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Priorité santé.
Pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde, vous informer sur vos droits, vous éclairer sur la prévention, les traitements et les moyens d'y accéder, Priorité santé vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Pour participer, contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix en partenariat avec l'INA, Adobe et Aprim Publishing.